Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème ce 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Niger. Comment consolider les acquis après le 26 juillet? La Renaissance renaît souvent de la destruction, a-t-on coutume de le dire. Ainsi, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le moment est venu de faire renaître l'espoir des droits de l'homme pour toutes et pour tous. Et c'est tout au long de l'année 2023 et au-delà. Cette année est l'occasion de commémorer l'un des engagements internationaux les plus importants au monde. La déclaration reflète un accord selon lequel l'égalité, la liberté et la justice sont des valeurs qui sont le moteur d'une société prospère où chaque personne peut bénéficier de l'égalité des chances dans ses domaines et dans ceux de son choix. La déclaration est un guide concret composé de 30 articles qui présentent nos droits et nos avantages qui sont réalisés par beaucoup mais qui sont hors de portée pour d'autres, estime le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Madame Oumulher Chefou, directrice des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Madame Oumulher Chefou, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Hamani Assouman, coordonnateur du collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE. Maître Hamani Assouman, bonsoir. Et Bachar Mahman, juriste et coordonnateur du réseau Espérance. Mahmoud Bachar, bonsoir.
Bonsoir.
Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Madame Oumulher Chefou. Que peut-on retenir au sujet de la situation des droits de l'homme aujourd'hui au Niger?
Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous. Comme vous le disiez, nous célébrerons le 10 décembre, donc le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ce 75e anniversaire, il faut le rappeler, il a pour thème cette année « Honorant la promesse de liberté, d'égalité et de justice pour tous ». La question que vous me posez, à savoir...
La situation des droits de l'homme au Niger.
La situation des droits de l'homme au Niger, elle se porte bien, vraiment, à l'heure actuelle. Les autorités, nos autorités du pays, les nouvelles autorités, vraiment attachent une importance capitale aux droits de l'homme.
Rappelez-le, nous sommes dans une transition militaire.
Effectivement, nous sommes dans une transition militaire, mais cette transition militaire, ils n'ont pas omis de leur prise de pouvoir, notamment dans l'ordonnance numéro 2023-02 du 28 juillet 2023, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. Donc nos autorités ont réaffirmé leur attachement aux engagements internationaux antérieurement souscrits et régulièrement ratifiés par le Niger. Elles ont également, dans la même ordonnance, elles se sont engagées à assurer à tous l'égalité devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse. Elles se sont par ailleurs portées garantes des droits et libertés de la personne humaine et du citoyen, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est là, je vous le disais, dès l'ordonnance des nouvelles autorités portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. Et pour vous confirmer que ces autorités attachent une importance capitale aux droits de l'homme, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existait un ministère de la Justice. Mais à l'avènement de ce régime, ils ont consacré un ministère de la Justice et des droits de l'homme. Donc ça, ce n'est pas un vain mot, ça, ce n'est pas des vains mots. Il y avait le ministère de la Justice qui était là. Certes, il y avait une direction des droits de l'homme au sein de ce ministère, mais la dénomination droits de l'homme n'apparaissait pas.
Donc selon vous, c'est tout un symbole?
C'est tout un symbole, effectivement. Donc vraiment, je pense que c'est un signal fort que les droits de l'homme seront respectés et sont respectés pendant cette transition.
Madame Oumoulher Chefou, en 2023, nous célébrons le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui coïncide avec le 30e anniversaire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et depuis 75 ans, la déclaration vise à conférer aux sociétés l'égalité, les libertés fondamentales et la justice. Rappelez-nous un peu les engagements du Niger pour la promotion et le respect des droits de l'homme au Niger.
Les engagements du Niger pour la promotion et le respect des droits de l'homme au Niger. Le Niger, comme vous le savez, donc, a depuis des années, est membre, disons, il a signé la quasi-totalité
des instruments
les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les 10 principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notre pays y est parti. Il est également parti aux 2 traités principaux des droits de l'homme dans notre région Afrique, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Donc pour vous dire que le Niger est partie prenante à tous les instruments essentiels relatifs aux droits de l'homme.
Donc les Nigériens peuvent espérer de la transition, le respect et la promotion des droits de l'homme.
Ça, je vous l'ai dit depuis et les autorités l'ont affirmé dès la proclamation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Ce n'est pas une déclaration dans l'air comme on le dit.
Déclaration dans l'air, non, on ne peut pas prendre des textes pour que ça soit des déclarations à l'air. Et le signal fort, je vous dis, c'est la consécration du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Ce n'est pas un vain mot, et des droits de l'homme.
Merci beaucoup, Madame Maître Hamani Assouman. Le collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, est un collectif d'une quarantaine d'associations et de mouvements de défense des droits de l'homme au Niger. Comment le CODE aborde-t-il les questions liées aux droits de l'homme au Niger?
Voilà, merci Mokhtar. Bonjour chers téléspectateurs, je salue les copanélistes. Vous me permettrez de, avant tout propos, de saluer et de, en tout cas la communauté des défenseurs des droits humains, comme on dit, à l'occasion de cette journée, de la journée internationale des droits de l'homme. Et je salue leur résilience, en tout cas le combat qu'ils sont en train de faire. Ils ont fait preuve, l'engagement dont ils font preuve au quotidien. Vraiment, je les salue. Je salue la communauté, en tout cas nationale et internationale, des défenseurs des droits humains. Vous me permettrez, pour répondre à votre question, je dirais tout de suite que le CODE, c'est une organisation fêtière d'à peu près 44 structures, en tout cas qui avait été mis sur les fonds baptismaux depuis 2000. On a eu notre reconnaissance, on a commencé à travailler, mais finalement, il a fallu 2010 pour qu'on ait notre reconnaissance officielle. Maintenant, le CODE, depuis lors, le CODE a toujours été sur tous les fronts concernant la défense et la promotion des droits humains. Par rapport à la lecture que j'ai faite par rapport à la sauvegarde et au combat pour la défense des droits humains, relativement au contexte dans lequel nous sommes, mais je vous me permettrai de dire un mot par rapport à, avant de répondre à votre question, de dire un mot par rapport à la DIDH, qui est un document de référence. De façon.
Allez-y.
La Déclaration universelle des droits de l'homme, nous fêtons le 15e anniversaire. En tout cas, c'est un document de référence mondiale. On ne peut pas. C'est un document qui a fait ses preuves, toujours d'actualité, vraiment qui a une portée, pas contraignante, mais qui a une forte portée, en tout cas morale, à l'international. Aujourd'hui, aucun pays au monde, même si les dictateurs ne voudraient pas se voir, en tout cas qu'on dise qu'il est en train de bafouer les droits humains. C'est vraiment psychologique. Tout pays souhaiterait qu'on dise qu'il est en phase avec les droits humains.
Malgré l'existence de la déclaration, on constate un peu partout, dans nos pays,
bien sûr,
des attentes
bien
et des
sûr,
abus.
Bien sûr, tout à fait. Donc, le document, je disais, c'est un idéal à atteindre. Mais la pratique, c'est pour cela qu'on dit, parallèlement, ou disons, pour la mise en œuvre de ce document-là, du document, en tout cas des initiatives, que ce soit législatives, des réformes, ou bien même des travaux d'engagement que nous faisons au quotidien, ce travail doit être fait au quotidien pour rendre possible cet idéal-là. Parce que c'est un idéal, c'est un document qui n'est pas contraignant, c'est vraiment l'aspect moral. C'est pour ça qu'au quotidien, ce travail que nous sommes en train de faire, que ce soit en termes de réformes au niveau de la chancellerie des ministères, doit faire quelque chose pour faire bouger les lignes. comme on dit, pour la défense et la promotion des droits humains. Maintenant, par rapport au travail que nous faisons, et pour répondre de façon précise à votre question, je pense que le droit de l'homme au Niger ne commence pas à partir du 26 juillet 2023. C'est pour cela que vous me permettez de dire un mot par rapport à ce qui s'est passé. Le Niger ne fait pas exception. Il y a ce qu'on appelle le retissement de l'espace civique dans le monde. Aujourd'hui, depuis les événements de 2001, 11 septembre 2001, il y a ce qu'on appelle la lutte anti-terrorisme. Et fort de ce prétexte-là, beaucoup d'États dans le monde ont émis des lois assez liberticides. Le Niger ne fait pas exception à la règle. Madame ne voit pas, mais elle sera d'accord avec moi qu'il y a un certain nombre, avant l'avènement même des autorités militaires au pouvoir.
Avant le coup d'État du 26 juillet 2023.
Que nous avons décrit. Il y avait des lois jugées que notre lecture, c'est que c'était des lois jugées liberticides. C'était la loi sur la manifestation de la loi publique. Malgré que cette loi, c'est une loi de déclaration, pratiquement, c'est devenu une loi d'autorisation. Dans la pratique, vous voyez, il y a beaucoup, il y a un document qui a été fait, un rapport.
Mais comment expliquer cet état de fait?
C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'effectivement, la pratique, c'est pour dire que le droit de l'homme sont menacés au quotidien. Et les principales raisons que je suis désolé de dire en face de madame,
Donc, ça, c'était bien avant le coup d'État.
Bien avant. Vous me permettez, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un combat de l'homme, un combat au quotidien, un combat qu'on doit faire au quotidien. Il y a les lois liberticides, ça ne s'arrête pas là. Il y a la loi portant interception de certaines communications pour voie électronique. Il y a la loi sur la
cybercriminalité.
Sur la cybercriminalité qui continue à faire des. En tout cas, qui continue à faire, malgré l'ordonnance 2010-35 qui dépénalise les délits commis pour voie de presse, et on continue, les journalistes continuent à aller en prison. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un retraissement de l'espace civique au Niger et nous travaillons aujourd'hui pour que ça soit un peu ouvert. Maintenant, venons-en aux événements du 26 juillet. Depuis les événements du 26 juillet, madame l'a si bien dit, effectivement, les autorités militaires ont proclamé leur attachement, leur fort attachement, en tout cas aux instruments juridiques internationaux auxquels l'État est parti. L'État du Niger est parti. On leur concerne cela. Effectivement, maintenant, le plus important, ça, c'est une déclaration solennelle, mais dans la pratique, il faut que nous veillions. Nous allons veiller.
Oui, mais vous êtes en train de veiller. Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement sur le terrain?
On a constaté, effectivement, à un certain niveau, on a constaté à un certain moment qu'il y avait, au lendemain des événements, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de faits et gestes, ou disons des cas pratiques qui ont été posés, notamment par rapport aux dirigeants de l'ancien régime. Nous, tout ce qu'on avait dit, c'est vrai, c'est tout à fait normal, c'est du devoir régalien de l'État, ou disons du parquet de poursuivre. Mais on s'est dit qu'il y a un certain nombre, on doit le faire dans les règles de l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu à ce qu'on allait. C'est pour ça qu'à un moment, on avait fait des déclarations pour faire venir surtout la procédure régulière. Les garanties offertes par les droits de la défense là, doivent être respectées. Ces gens qui ont été mis en cause doivent subir une procédure régulière. Ils ont juste en cause de la présomption d'innocence. C'est pour cela que nous sommes en train de veiller pour voir qu'est-ce qui est en train d'être fait par rapport à cet aspect. Le deuxième niveau de lecture que nous faisons par rapport au respect des droits humains par les autorités actuelles, c'est par rapport à, surtout en termes de réformes. Nous sommes en train de plaider pour que vraiment qu'il y ait des réformes. Ah. Parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. La période de transition, c'est une période favorable pour les réformes. C'est pour cela qu'on s'est dit aujourd'hui, la meilleure garantie, je parle sur le contrôle.
Oui, avez-vous eu à rencontrer le ministère de la Justice par rapport à tout cela?
Oui, on a eu à rencontrer personne. On a eu à rencontrer le code, on a eu à rencontrer le BNC code, on a eu à rencontrer le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, en présence de son staff, la Direction générale des droits de l'homme, tout le monde, il était présent. On les a fait d'abord. C'est une période de civilité. Il faut profiter pour présenter les civilités au garde des Sceaux. Et ensuite, on a vraiment mis sur la table les problèmes qui se posent en termes des droits de l'homme. Parce qu'on s'est dit, ce n'est pas parce qu'on est en période de transition, ce n'est pas parce qu'on est en période de... Surtout que la communauté internationale nous observe. Ce n'est pas parce qu'on est en période de transition militaire qu'on pense que les droits de l'homme doivent être mis en veilleuse. C'est pour cela qu'on s'est dit que, fort de leurs déclarations solennelles qu'ils ont eu à faire en face de la nation, en face de la communauté internationale, ils doivent travailler pour que les droits de l'homme soient respectés. Les droits de l'homme doivent être en phase aujourd'hui. C'est même envenimer la situation que encore de violer les droits de l'homme pour les militaires même. Aujourd'hui, le Niger a besoin de paix, surtout que nous sommes dans un contexte sécuritaire, un bien qui n'est pas du tout favorable, en tout cas pour la justice et l'effectivité des droits humains. Pour qu'il y ait la paix sociale, et je pense que les militaires sont là pour ça, pour qu'il y ait la paix sociale, je pense que quelque part, les droits humains doivent être respectés, les droits humains doivent être mis en avant. C'est pour cela, dans la toute première déclaration du code, au lendemain des événements, on a fait une déclaration pour dire qu'on prend acte de l'avènement des militaires au pouvoir. Mais en veillant, en tant que, c'est pas parce qu'on est en période de transition qu'on doit mettre en période militaire, puisque quand on pense que cette mentalité, on pense que quand on est en période de transition,
il faut mettre les droits de l'homme
sous coupe réglée. On s'est dit que vraiment nous allons veiller toutes les fois qu'il y a violation, on va rappeler à l'ordre les militaires pour dire que, et ça c'est pour le bien commun, puisque c'est dit quelque part, un grand penseur l'a dit, partout où les droits de l'homme sont violés dans le monde, il n'y aura pas la paix. Tant qu'on veut la paix dans le monde, il faut qu'il y ait, en tout cas, les droits de l'homme doivent être mis en avant dans toutes les politiques publiques. Les droits de l'homme doivent être au cœur de tout ce qu'on... Et c'est ce qu'on avait rappelé dans notre déclaration, la toute première déclaration au lendemain des événements du 26 juillet. On a dit que les droits de l'homme doivent être au cœur de tout ce qu'il y a comme, tout ce qu'il y a comme politique publique, tout ce qu'il y a comme réforme par rapport à la transition. On a dit que les militaires doivent... Nous, c'est notre cri de cœur et nous allons veiller pour cela, que les droits de l'homme, surtout les réformes, parce que nous sommes en période de transition, c'est la période propice pour faire des réformes. C'est vrai, il y a une loi, surtout une loi qui porte qui porte droit et devoir de défenseur des droits humains, qui est incomplète, qui n'a pas un décret d'application. Nous, nous faisons un travail de défenseur des droits humains, mais quand la justice nous interpelle, est-ce que qui est là pour nous? C'est pour cela qu'on a travaillé. Il y a eu cette loi-là en 2019. Maintenant, tout ce que nous allons profiter de cette période pour qu'il y ait un décret d'application, pour dire voilà les conditions dans lesquelles, dans l'exercice, seulement à l'occasion et de l'exercice de notre chose. Si moi, en tant que défenseur, j'ai fait un travail qui n'a rien à voir avec le travail défenseur, je ne serai pas couvert par cette loi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons plaider, en tout cas d'ici la fin de la transition, pour que cette loi-là, il y ait un décret d'application, pour que nous puissions être en phase avec, puisque c'est conforme à la déclaration universelle, en tout cas de la déclaration des défenseurs des droits humains, qui date de 2000, je crois, qui date de 2000. Donc, c'est conforme à cette déclaration qu'on a dit que chaque État doit émettre. Le Niger est le quatrième pays dans la sous-région, après le Burkina, et la Côte d'Ivoire et le Mali, à avoir cette loi qui porte droit et devoir de défenseur, qui a été adoptée en 2019. Et dans la pratique, les autorités de poursuite feignent d'oublier cette loi-là. C'est l'occasion également.
Maître Amani Assoumane, en tant que défenseur des droits de l'homme, quelle analyse faites-vous au sujet de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité? Vous l'avez effleuré un peu tout de suite, sous l'emprise de laquelle certains activistes ont fait l'objet de poursuites pour diffamation par un moyen de communication électronique.
Tout à fait. Donc cette loi-là, effectivement, j'ai eu à l'aide tout à l'heure de mes propos liminaires. C'est une loi qui est
concrète. Oui, mais est-ce que cette loi fait partie des lois à réviser
encore? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on a eu à faire même un consortium avec un certain nombre de structures, que ce soit l'ABCA, qui est une structure de défense et de promotion des blogueurs. On a eu à faire un consortium, on a eu à travailler pour qu'il y ait une relecture de cette loi-là. Vous voyez, on a fait un travail de fond en comble pour voir les parties que nous avons jugées liberticides par rapport à cette loi. Donc cette loi-là, on a jugé utile. C'est vrai, c'est pris dans un contexte bien déterminé. Le contexte, c'est quoi? C'est le contexte, même dans les visas, vous allez voir que quelque part, on a visé même les lois antiterroristes. Donc c'est dans un contexte, comme ça fait corps avec ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai dit que les lois qui ont été prises depuis 2001, il y a eu ce qu'on appelle... le droit a pris un coup. C'est ça la victime collatérale. Le droit a pris un coup. Il y a eu des lois jugées à liberticides, dont celle-là.
Donc ça
a été révisé, mais c'est que ça fait une forte amende. Aujourd'hui, cette loi-là, c'est grâce aux organisations socio-professionnelles des médias que vous êtes. Il y a eu une pression qui a été faite sur le pouvoir dans le temps. C'est vrai, il y a eu une lecture, il y a eu une révision de cette loi-là, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est les peines privatives, ça ne suffit pas. Moi, je pense que c'est ce qui ressort des choses. Parce qu'il y a, des peines privatives de liberté qui ont été réduites au profit de l'amende. Un organe de presse qui a été condamné à payer à peu près minimum c'est de 5 à 10 millions. Est-ce qu'un organe de presse aujourd'hui, au niveau, dans le contexte ambiant, l'organe de presse va fermer? Donc, quelque part, je me dis qu'on a pris d'une main ce qu'on a donné à l'autre. Qu'est-ce qu'il a eu de faire maintenant? C'est de voir, on a eu à faire un plaidoyer. Les documents sont là. C'est de voir, en cette période de transition, profiter pour réviser cette loi-là, notamment pour qu'elle soit en phase avec l'ordonnance 2010-35. L'ordonnance 2010-35 dépénalise un certain nombre de délits commis par voie de presse. Et voilà que une autre loi vient.
Oui, mais est-ce que cette loi aussi ne doit pas bénéficier d'une révision?
La loi 2010-35. Oui. Bien sûr, la loi 2010-35, puisque le contexte a évolué, c'était depuis 2010, la transition de 2010, que cette loi a été prise.
Nous sommes maintenant, en 2023.
Nous sommes en 2023. Maintenant, dans la
bientôt partie, en 2024.
C'est là où je vous interpelle, où, en tant qu'organisation sur ce profil de médias, c'est à vous de faire un travail. La dernière fois, on était avec IMS à une table ronde à laquelle vraiment beaucoup de partenaires ont été invités pour voir quel est le contexte actuel, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, parce que c'est un milieu où l'état du lieu n'est pas du tout religieux par rapport aux médias. C'est pour cela que la loi 2010-35 doit être révisitée pour tenir compte, non seulement pour sauvegarder les acquis, il y a un certain nombre de droits, et surtout élargir les champs d'application de cette loi. Les infractions, il y a un certain nombre d'infractions aujourd'hui qui ne sont pas prévues surtout avec les nouvelles technologies, avec le numérique. C'est pour cela qu'il faut travailler pour que les droits soient en phase. La loi 2019, là, c'est portant répression de la cybercriminalité, et la loi 2010-35 soit en phase. Aujourd'hui, un journaliste peut aller. La loi 2019 ne fait pas de catégorisation. Vous avez des acquis, vous, en tant qu'homme des médias. Mais aujourd'hui, on peut, sous le simple prétexte, c'est l'article 37, pour dire que sous couvert de troubles à l'ordre public, on peut vous amener, vous pouvez garder prison. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut travailler pour que les lois soient en phase, pour que non seulement garantir ce qu'on vous a donné en tant que pour la loi 2010-35, et surtout dépénaliser. Surtout, la loi portant répression, là, vraiment, ça concerne les dispositions liberticides sur lesquelles on peut revenir.
Merci beaucoup, Maître Assoumane. Mamoud Bachar, comment le réseau Espérance compte-t-il faire la promotion et le respect des droits de l'homme dans un contexte de transition?
Merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour naturellement donner notre point de vue sur le processus en cours, notamment en ce qui concerne précisément le respect des droits humains fondamentaux. Tout à l'heure, Madame la directrice l'a rappelé, je crois, depuis le discours, en tout cas de prise de pouvoir du CNSP, cet aspect-là a été réitéré parce que les nouvelles autorités se sont engagées non seulement à respecter tous les termes de différents accords souscrits par le Niger et régulièrement ratifiés, y compris en ce qui concerne le respect des droits humains fondamentaux. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a une garantie d'engagement des autorités à observer ces respects. Et dans beaucoup de nos interventions, à travers vous, les médias, nous avons réitéré ces soucis-là, en tout cas de voir les autorités respecter justement cet engagement-là en ce qui concerne les droits humains. Peut-être les gens l'oublient souvent. En réalité, quand on parle des droits humains, on parle de tous les droits humains, des humains qui sont sur la Terre. Parce que les positions des individus changent. Ceux qui sont dans la position d'autorité des décideurs peuvent être dans la position de ceux sur qui on décide demain. Donc c'est pourquoi chaque fois qu'on parle de cet aspect, vous avez comme l'impression qu'il y a une dualité entre ceux qui dirigent et ceux qui rappellent justement la nécessité de respecter donc ces dispositifs-là. Certains d'entre eux, c'est une fois qu'ils se retrouvent de l'autre côté donc de la situation, qu'ils se rendent compte que tous les combats-là,
l'autre côté,
quand ils ne sont pas au pouvoir, c'est en ce temps-là qu'ils font appel aux organisations de défense des droits humains pour dire que mes droits sont bafouillés, mes droits sont, puisque où que vous soyez, quelle que soit la position que vous occupez, vous pouvez avoir affaire à la justice ou affaire à la violation de certains de vos droits. Donc, travailler pour le respect des droits humains, c'est travailler pour soi-même.
Oui, mais Mamoud Bachar, est-il facile de faire la promotion et du respect des droits de l'homme dans un contexte de transition militaire?
Bien sûr, il est bien possible de le faire parce que aujourd'hui, les transitions militaires que nous avons, particulièrement celle du Niger, c'est des transitions patriotiques animées par des militaires quand même qui ont un certain niveau de formation aussi. Donc, qui sont des citoyens qui vivent dans le pays et qui vivent avec leurs frères et sœurs. Donc, je pense qu'en faisant promouvoir les droits humains, ils se protègent eux-mêmes puisqu'ils protègent leur pays, ils protègent les citoyens de toutes les exactions possibles qui peuvent venir de ceux qui gouvernent. Donc, de ce point de vue-là, très souvent, de par le monde, vous avez qu'il y a toujours ce conflit permanent-là entre la nécessité de garantir la sécurité, de garantir le respect des mœurs, de garantir surtout la sûreté des individus et le respect des droits humains. Il vous souviendra que quand il y a eu, par exemple, le 11 septembre aux États-Unis, malgré que ça soit le pays, le chantre des droits humains,
vous avez vu, démocratie.
Et de la démocratie, ils ont pris le Patriot Act. Hein? Vous avez vu en France, quand le terrorisme a pris une certaine proportion, un certain nombre
de
vigipirates, etc. Ici, chez nous, vous avez vu quand le terrorisme a envahi le Sahel, et comment les choses étaient devenues, y compris en ce qui concerne l'utilisation des moyens numériques et autres. Donc, tout cela fait qu'il faut très souvent faire un travail de fond, travailler les mentalités pour que ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent, ceux qui sont chargés d'appliquer les normes puissent le faire avec intégrité, puissent le faire avec le sens de l'intérêt général. Parce que vous ne pouvez pas connaître d'une situation qui n'est pas prévue par la loi. Vous ne pouvez pas appliquer des peines plus fortes que celles qui étaient prévues au moment où les faits étaient commis. Vous ne pouvez pas obstruer
et l'exercice d'une liberté fondamentale prévue par la Constitution, pour un peu parler de ce que Maître Amane parlait tout à l'heure en ce qui concerne la restriction de l'espace public qu'on avait constaté juste un peu avant l'avènement du 26 juillet 2023. Donc, tout cela nous interpelle, nous interroge. Comment des personnalités issues de tous ces processus démocratiques, de tous ces combats des années 90, puissent arriver à un moment où eux-mêmes, ils deviennent des bourreaux. Eux-mêmes, ils deviennent ceux qui empêchent aux autres citoyens de pouvoir exercer leurs droits au point
Comment changer cet état de choses?
Mais changer cet état de fait, je pense qu'il faut d'abord intégrer les droits humains de manière assez précise, assez sérieuse dans les curricula de formation de juristes, particulièrement des magistrats, puisque c'est eux qui sont les garants en fait des droits humains. Puisque tout ce que vous aurez à faire, ça finit au niveau des juridictions. Donc quand vous n'avez pas un juge qui est assez imprégné justement de ces valeurs-là, vous risquez de faire face à un tyran. Et un tyran, c'est celui qui peut appliquer de manière exagérée en fait un certain nombre de dispositions pour restreindre justement l'exercice d'une liberté.
Maman Bachar, à présent, quelle est la situation des hommes des médias après le coup d'État du 26 juillet? Vous êtes un observateur à distance.
En fait, j'observe comme tous les citoyens qu'il y a une certaine liberté relative qui est constatée dans les médias, y compris les médias publics, qui deviennent de plus en plus vraiment accessibles à tous et que de plus en plus opinions sont plurielles.
C'est un changement positif.
C'est un changement positif et je pense qu'il faut le consolider. Il faut faire en sorte que, effectivement, en même temps que nous défendons la patrie, en même temps que nous essayons de sauvegarder ou de faire valoir notre indépendance et notre souveraineté, il faut aussi penser à respecter les droits de toutes les personnes d'ailleurs qui vivent sur le sol nigérien. Cela est fondamental. Nous le faisons pour nous-mêmes. Nous le faisons par exigence morale, mais nous le faisons surtout pour la postérité. Il faut que les gens comprennent que et désormais, l'esprit de respect des droits humains est un acquis. On sait qu'il n'y a pas d'idéal en matière juridique. Et tout le monde l'a dit, et je crois que vous avez parcouru aussi du contrat social. Vous avez vu l'interrogation que lui-même Jean-Jacques Rousseau se faisait. Il disait, pour paraphraser, « Je vais chercher si dans l'ordre civil, il y a quelques règles d'administration légitimes et sûres en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. » Je tâcherai dans cette recherche d'allier ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point divisées. Donc, comme l'a dit Maître Amane tout à l'heure, c'est un idéal. Mais cet idéal-là ne peut être atteint que quand on aura nous-mêmes l'esprit et la volonté de pouvoir y accéder. Puisque vraiment promouvoir les droits humains, c'est se protéger soi-même. Puisqu'on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. On va toujours commencer avec vous, Madame Oumoulahera Chefou. Le Sahel est aujourd'hui confronté à des multiples défis, dont celui de la pauvreté, de l'insécurité et même à certains défis liés directement à la survie de notre planète, en l'occurrence celui du changement climatique. Comment faire face en même temps à tous ces défis, Madame Oumoulahera Chefou?
Faire face en même temps à tous ces défis, changement climatique,
l'insécurité, la pauvreté.
Ça, c'est vraiment un combat de longue haleine, comme on le dit. L'insécurité, pour commencer par cela, vous n'êtes pas sans savoir, ça fait
plus d'une décennie
oui, que ça sévit dans notre sous-région. Et les autorités ont lutté et continuent à lutter contre cette insécurité, mais ça persiste. Donc, d'où l'avènement de ce régime. À son avènement, les autorités qui ont pris le pouvoir ont bien précisé que c'est pour efficacement lutter L'une des raisons qui les a poussés à intervenir, c'est pour efficacement lutter contre le terrorisme. Donc sur ce point, je pense qu'on peut faire confiance à nos autorités. Du moment où ils ont pris le pouvoir pour cela, c'est parce qu'ils ont les moyens d'y parvenir, d'y faire face. Donc je pense que la solution viendra de cette intervention. On le souhaite quand même. Par rapport à l'autre aspect,
vous disiez, la pauvreté.
La pauvreté également, bon, ça c'est vous le savez également, c'est vraiment une situation.
Un phénomène
endémique vraiment chez nous. La lutte contre la pauvreté également, c'est une lutte de longue haleine vraiment. Comment y faire face? Franchement, ça, il faut des politiques, des stratégies, mais que les gens se mettent au travail quand même. Le travail intellectuel, le travail physique, tout ça là, ça peut nous aider à juguler le phénomène parce qu'il ne sert à rien de rester à attendre une solution qui vienne du ciel, mais c'est à nous de nous mettre au travail et de pouvoir lutter contre cette situation. L'autre...
Oui, je disais que sous d'autres cieux, c'est la situation sécuritaire qui est mise en avant pour atteindre à des libertés, pour atteindre à des droits de l'homme, pour commettre des abus. Comment efficacement lutter contre ces abus en situation d'insécurité?
Comme vous le dites, les situations d'insécurité, effectivement, c'est une réalité, sont propices à des violations des droits de l'homme. Et la situation surtout d'insécurité dont nous vivons dans notre espace, le terrorisme, c'est carrément de la violation des droits de l'homme parce que il n'y a pas une force qui est là, qui est connue, dont on connaît les revendications organisées et qui commet des actes, peut-être dont on sait la cause de ces actes-là et on connaît les revendications légitimes. Donc le terrorisme en lui-même, vraiment, c'est une violation flagrante, vraiment. Je ne sais même pas comment qualifier ça de violation des droits de l'homme. Et de l'autre côté, bon, dans la lutte contre le terrorisme également, ça peut engendrer des violations.
Oui, mais est-ce que vous êtes en train de travailler pour lutter contre ces abus au ministère de la Justice, à la direction des droits de l'homme?
Effectivement, comme vous le dites, on est en train de travailler pour pouvoir lutter contre ces violations des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous effectuons des formations à l'endroit des forces de défense et de sécurité, des acteurs de la société civile, des magistrats. Plusieurs acteurs sont actuellement formés sur le respect des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons organisé plusieurs formations, notamment régionales, dans la région de Dosso, nous avons regroupé tous les acteurs. La région de Maradi également, courant année, cette année même, nous avons effectué des formations vraiment à l'endroit de tous les acteurs pour le respect des droits de l'homme, quelle qu'en soit la circonstance, parce que c'est des droits qui ne font l'objet d'aucune exception, quel qu'en soit le cas, il faut vraiment les respecter. Donc nous faisons ces séances de sensibilisation à l'égard des acteurs concernés et je pense que ça va porter ses fruits.
Merci beaucoup, Madame Umbulhair Sekou, Maître Hamani Assouman. Pays membre de l'Alliance des États du Sahel, le Niger est affecté depuis plus d'une décennie, Madame Umbulhair Sekou l'a rappelé tout de suite, par des crises et chocs récurrents, notamment la sécheresse, les conflits armés, les épidémies qui ont durablement affecté les populations. Quelles sont aujourd'hui les réponses les plus urgentes à tous ces défis?
Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, effectivement, de plus en plus, depuis, c'est là où la difficulté se pose avec Acuité, parce que c'est des cas qui n'ont pas été prévus par les textes antérieurs, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire, c'est pour dire quoi, le monde est ambiant, les choses évoluent, les problèmes s'accentuent, multiples et multiformes. Quand vous voyez, par exemple, c'est vraiment des cas qui se posent, concrets, qui se posent sur le terrain, des cas de violation, par exemple, des droits économiques, sociaux et culturels, parce qu'aujourd'hui, l'État, c'est vraiment des droits élémentaires de la personne humaine. Quand vous voyez la pauvreté, un pan important de la communauté n'a pas accès à ses droits élémentaires, par exemple à l'éducation, à la santé, à un certain nombre, du fait que, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées, du fait de ce terrorisme. Vous voyez les liens qu'il y a entre ces différentes, quoi. C'est-à-dire les problèmes s'accentuent, il y a des violations des droits classiques élémentaires, quand aujourd'hui les écoles sont fermées, les enfants n'ont pas accès à cette basique-là en termes de droits humains, l'éducation, les centres de santé sont également fermés dans certaines parties du pays. Donc vous voyez ce que ça fait. Et tout ça, c'est différent. La zone cogiale, c'est le tourisme. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a vraiment du boulot en tant que défenseur. On a vraiment du boulot. On est en train de faire une sorte de monitoring pour faire vraiment des reportages, pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, pour avoir certains éléments, ne serait-ce qu'à travers nos points focaux qui sont sur le terrain, pour pouvoir faire des propositions concrètes au gouvernement. Nous, c'est ce qu'on fait. On ne peut qu'accompagner le gouvernement, faire du plaidoyer, parce qu'on n'a pas d'autre arme que ça.
Oui, mais est-ce que le gouvernement est attentif par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire?
Bon, je présume vraiment que le gouvernement est attentif, surtout dans ce contexte aujourd'hui. On sait que dans ce contexte aujourd'hui, la preuve, le ministère de la Justice a dit que la porte est grandement ouverte. À tout moment, on peut venir. S'il y a des cas qui nous posent problème, à tout moment, on peut venir, on peut faire des déclarations. En tout cas, on travaille sans entrave. En tout cas, c'est vraiment ce qui nous a été dit au niveau des personnes les plus autorisées au niveau de la chancellerie, que les portes nous sont ouvertes et qu'à tout moment, s'il y a des cas de violation, en tout cas, on peut les porter ça à leur connaissance. Parce qu'il y a des cas, nous, on a des points focaux. Le ministre était là présent, il a dit qu'il y a des points focaux, on peut relever les choses. Parce que lui-même dit qu'il est défenseur des droits humains, il a été directeur général des droits humains, donc il connaît un peu le contexte. Donc c'est pour ça qu'il nous a dit à tout moment, la porte est ouverte, on peut venir pour s'il y a des cas qu'on a depuis documenté. C'est pas le tout de venir, il faut pas venir prendre des choses à la légère. Pour dire que non, il y a des cas de violation, il faut pouvoir documenter, il faut pouvoir fournir la preuve, il faut vraiment prendre par tout moyen, on peut fournir la preuve.
Oui, mais est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour faire face à votre mission?
Non, on est limité par les moyens, c'est pas pour faire dire que non, je ne demande pas, tout le monde sait qu'on n'a pas de moyens pour pouvoir aller, pour nous déplacer, pas moyens matériels, mais aujourd'hui, on est même limité par rapport aux déplacements dans certaines zones.
Par rapport à cause de l'insécurité.
À cause de l'insécurité, dans certaines zones, on ne peut pas oser partir. Même ceux qui sont là, qui travaillent avec nous, ils sont obligés de les faire en cachette. Il y a certaines choses, on a eu à faire des rapports, des trucs sur les STR, ce qu'on appelle la surveillance, documentation et reportage, les STR, avec des camarades qui sont dans nos points focaux, qui sont dans les zones intéressées par le terrorisme, mais il y a certains qui sont menacés. Même pour venir à Niamey, pour venir faire des trucs là, il faut ça en cachette. Chez eux, ils sont toujours la peur au ventre. Donc, pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un travail difficile. Le contexte, ça rend difficile notre travail de défenseur des droits humains que nous sommes en train de faire. C'est vraiment très, très difficile dans ce contexte ambiant où on ne peut même pas faire le déplacement sur le terrain. Il y a beaucoup de choses sans compter que nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand nous interpellons. Profiter pour. Il n'y a que la loi qui protège. C'est pour ça que nous demandons qu'il faut profiter de cette. Je me répète encore.
Transition.
De cette transition pour faire des réformes hardies. Aujourd'hui, nous ne sommes pas pour sécuriser les citoyens, pour sécuriser dans tous les domaines, le droit économique, social et culturel. Vraiment, je pense que civil et politique, surtout ça, le droit civil et politique.
Merci.
Vous permettez de le dire vraiment par rapport à la manifestation de la voie publique, par rapport à un certain nombre de droits qui ont eu à restreindre l'espace civique. Il faut travailler pour que tous ces droits-là, pour que les lois soient ouvertes, pour qu'il y ait des lois conformes aux standards. Parce que ça, l'avantage, pour revenir à l'IDH.
Merci beaucoup, maître Assouman Hamani. Mamoun Bachar, l'article 2 de la Lausanne, la loi portant orientation du système éducatif nigérien, stipule que l'éducation est un droit pour tout citoyen nigérien. L'État garantit l'éducation aux enfants de 4 à 18 ans. Pendant ce temps, au total, 921 établissements d'enseignement primaire et secondaire ont été contraints de fermer. Maître Hamani Assouman l'a effleuré tout de suite. En mai dernier, en raison de l'insécurité dans la région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières, a annoncé le ministre nigérien de l'Éducation nationale à l'époque, Ibrahim Natatu, après une visite de supervision dans la région. Quelles sont les attentes des organisations de défense des droits de l'homme?
Bon, les attentes sont nombreuses. C'est pas seulement sur le plan
éducatif.
D'éducation. Vous avez évoqué la question de lutte contre la pauvreté. Si vous regardez en matière d'accès à l'eau, en matière d'accès à la nourriture, accès à l'électricité, accès même à ce qu'on appelle les droits civils spécifiques tels que la communication.
Tout cela est à défendre.
Voilà, tous ces droits-là sont à défendre, c'est des droits humains. Mais évidemment, quand on parle de fermeture de l'école, ça fait vraiment froid au dos. Mais il faut aussi reconnaître qu'à ce niveau-là, même l'État, en réalité, ne peut faire que ce qu'il peut. C'est-à-dire, à l'impossible, nul n'est tenu, comme on le dit en droit.
Mais la question maintenant, c'est que est-ce qu'on a tout tenté? On a tenté certaines choses. J'ai vu des regroupements de certaines écoles qu'on a fait, notamment à Walam, etc., Tabarbaré, etc. Il y a eu à Torodi. Il y a eu des efforts qui ont été fournis. Mais est-ce que ça peut tenir sur le long terme? Puisque il faut regrouper les élèves. Quand on les regroupe, il faut les nourrir. Il faut les soigner. Donner un abri décent. Il faut les soigner, etc., etc. Donc, c'est pas des situations où j'allais dire des solutions permanentes. En fait, c'est des solutions provisoire dans l'espoir que ce phénomène-là d'insécurité puisse s'estomper dans le moyen terme et que ces enfants-là puissent véritablement retrouver leur habitat naturel. Comme on dit, on n'est jamais plus à l'aise que chez soi-même. Donc les souhaits, en tout cas, des organisations comme les nôtres, c'est de faire en sorte que justement ces enfants-là puissent justement avoir leur école là où ils ont l'habitude, justement, d'étudier. L'autre problème que ça soulève, c'est le problème des risques d'apatridie. Comme vous le savez, l'apatridie, c'est la situation d'une personne qu'aucun État ne reconnaît comme étant ressortissant par application de sa législation. C'est-à-dire, les enfants là qui sont en déplacement, que ce soit les enfants en déplacement interne ou ceux qui sont en situation de réfugiés, parfois, il est difficile du fait qu'ils ne sont pas accompagnés de pouvoir produire leur pièce d'état civil et donc de pouvoir leur produire leur certificat de nationalité lorsque le besoin se fait sentir. Donc, il faut maintenant travailler sur la documentation justement de ces enfants-là pour que chaque enfant...
Oui, mais à ce sujet, qu'est-ce que vous faites en tant que défenseur des droits humains?
Nous, on a beaucoup fait dans ce sens-là en ce qui concerne la lutte contre l'apatridie, par exemple, depuis pratiquement l'engagement décennal de lutter contre l'apatridie pris à partir de 2014. Nous nous sommes engagés dans cette lutte-là et déjà demain, en 2024, ça sera déjà 10 ans de lutte contre l'apatridie, puisque c'est en février.
Oui, est-ce qu'il y a des résultats concrets sur le terrain?
Le résultat concret sur le terrain, c'est que beaucoup des zones frontalières, en tout cas que nous avons sillonnées, nous semblent avoir pris la mesure justement de la gravité de ne pas disposer des documentations en tant que personne. Puisque souvent, les gens qui sont situés sur la frontière, ils ont même des difficultés à se situer de l'un ou de l'autre des pays. Donc, il faut une documentation. Et la plupart des temps, à l'occasion justement de ces activités de sensibilisation et des audiences foraines qui ont été organisées, beaucoup sont venus, ils ont cherché ce qu'on appelle le jugement déclaratif pour pouvoir se procurer au moins une identité sur la base de laquelle ils peuvent s'établir leur pièce d'identité ou même chercher leur certificat de nationalité. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une avancée. Mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire parce que jusque-là, comme vous l'avez constaté, l'un des droits fondamentaux des enfants qui est l'enregistrement à la naissance n'est pas garanti même à 40% au Niger. Jusque-là, les naissances se font vraiment dans les cases, véritablement très loin des centres de santé, très loin des agents de santé, si bien que l'enregistrement n'est pas fait. Jusque-là, dans ces pays, il y a des gens qui naissent, qui grandissent, qui meurent sans jamais disposer d'une documentation. Donc, vous voyez, tout ça là, c'est des enjeux assez importants. L'accès à l'eau, vous l'avez soulevé tout à l'heure. Même ici, dans cette ville de Niamey, il y a des quartiers périphériques qui n'ont pas d'adduction d'eau.
Ni l'électricité.
Même la pompe publique là manque. Vous voyez, ici à Niamey. Hein? Et ici, même à Niamey, vous avez un nombre important.
Le Niger est un pays de défis.
Beaucoup de défis. Et pourtant, nous ne sommes que 26 millions d'habitants assis sur d'immenses richesses. Mais on a comme l'impression qu'il y a d'un côté un enrichissement vraiment volumineux de certains individus et un appauvrissement croissant de la majorité des citoyens. Donc, il faut travailler dans ce sens-là. Et c'est cela les droits de l'homme.
Merci beaucoup, Mamana Bachara, Madame Omulhera Chefou. Quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour la promotion et le respect des droits de l'homme dans un contexte de transition militaire au Niger?
Ah oui, bon.
Vos conseils, recommandations?
Recommandations, bon, c'est de respecter les droits de l'homme vraiment dans toutes les circonstances. Et si on se colle au thème de l'année, liberté, égalité et justice pour tous. Nos conseils, c'est que tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Donc ce principe de liberté des êtres humains doit leur être vraiment consacré, qu'on les laisse vraiment libres, qu'ils s'expriment librement, donc dans le respect également des lois de la République, dans l'égalité également de tous les citoyens, que la justice puisse librement également rendre ses décisions à l'endroit de tout un chacun. C'est lui qui est en conflit avec la justice, qu'il réponde de ses actes, qu'il n'y ait pas d'interférence dans les décisions de justice. Une justice bien rendue, vraiment, c'est vraiment le respect des droits de l'homme. Donc, mes conseils, c'est le respect vraiment que chacun dans son domaine de compétence, qu'on le laisse faire son travail, que les gens soient libres de s'exprimer, de manifester dans le strict respect des textes établis en la matière, que l'égalité soit reconnue entre tous les citoyens nigériens qui sont dans la même situation, qu'ils soient donc égaux et que la justice fasse normalement son travail, que la justice soit rendue au peuple nigérien.
Merci beaucoup, madame. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir madame Omulhera Chefou, directrice des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Maître Hamani Assoumane, coordonnateur du collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, COD. Et Maman Bachar, juriste et coordonnateur du réseau Espérance. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan et à la réalisation Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.